Demain, 21h-22h pour Bonus Track. On parlera de Billie Eilish, c'est un peu la sensation du moment, puisque vendredi, c'est la sortie de son nouvel album. Et puis surtout, j'ai un invité de rêve, je suis trop content qu'il ait accepté notre invitation. Sydney, animateur d'HIP, HOP, sera avec nous en deuxième partie d'émission demain, entre 21h et 22h. Je vous embrasse très très fort. Caroline, je t'embrasse infiniment. On se retrouve demain à 21h sur RTL. Il est 22h. Et les infos sont présentées par Rachel Sadoudine. Bonsoir Rachel.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Des militaires, des forces armées déployées pour sécuriser les ports et l'aéroport de Nouvelle-Calédonie. Annonce de Gabriel Attal ce soir à l'issue d'une cellule interministérielle de crise. L'état d'urgence est entré en vigueur sur l'île. Le Premier ministre interdit l'utilisation du réseau social TikTok sur cet archipel donc français du Pacifique Sud en proie à de violentes émeutes. Depuis plusieurs jours. 4 personnes, dont un jeune gendarme, ont été tuées. En conséquence, 1800 policiers et gendarmes sont d'ores et déjà arrivés en renfort. 500 supplémentaires partiront d'ici demain. Ce soir, une cinquantaine de personnes, tous originaires de Nouvelle-Calédonie, étaient réunies à Paris pour exprimer leur inquiétude face à la situation sur place, comme Cassandre, jeune étudiante. Ses parents vivent à Nouméa.
Ici, on est hyper inquiet pour eux, on est loin, donc on se sent hyper impuissant. Ma maman, je l'ai au téléphone, elle est hyper inquiète, elle pleure, mon papa aussi. Enfin voilà, je les ai jamais connus comme ça. Ils ont peur. Ma maman m'a envoyé des vidéos de la maison en me disant « bah écoute, tu les as comme ça, ben, si on perd tout, on a au moins ça ». Ils ont préparé des sacs avec les passeports pour être prêts à partir s'il y a quoi que ce soit. Donc voilà, on est vraiment dans un climat qu'on n'a jamais connu en Nouvelle-Calédonie.
Des propos recueillis par Margot Munoz pour RTL. Situation donc extrêmement tendue en Nouvelle-Calédonie sur fond de tensions politiques. Des indépendantistes expriment leur désaccord face à une réforme électorale votée par le Parlement. Le ministre de l'Intérieur annonce ce soir l'assignation à résidence de 2 indépendantistes radicaux appartenant à la cellule de coordination des actions de terrain. C'est la frange la plus radicale du Front de Libération Kanak socialiste. L'autre grand titre du jour, c'est la traque de Mohamed Amra, traque désormais internationale. Le prisonnier évadé hier lors d'une attaque sanglante dans l'heure, l'attaque d'un fourgon pénitentiaire qui a fait 2 morts. Le prisonnier est donc toujours en cavale, tout comme ses complices, au moins 4 personnes. Interpol a émis une notice rouge. Le football, et c'est la mi-temps entre Nice et le PSG en 32e journée de Ligue 1. Les Parisiens qui mènent pour le moment, Michael Lefebvre.
Effectivement, Rachel, dans une rencontre complètement débridée, eh bien, les Parisiens mènent 2-1 face à l'OGC Nice. Barcola et Zagué ont permis aux Parisiens de mener 2-0. Réduction du score de Mohamed Ali, chaud à la demi-heure de jeu. Des Niçois qui n'ont pas abdiqué dans cette rencontre, mais qui ont été punis en première période par trop d'erreurs individuelles, en particulier sur le côté droit, avec Jordan Lotomba laissant eh bien, Bradley Barcola en feu ce soir, faire ce qu'il veut au sein de cette défense niçoise. Il y a de l'enjeu encore pour Nice qui doit gagner ce soir pour espérer la 4e ou la 3e place à la fin de ce championnat. 2-1 à la mi-temps.
Merci Mickaël. Mickaël Lefebvre, on vous retrouve pour un prochain point dans une heure sur RTL. Et l'autre match de la soirée, c'est Reims-OM. Et c'est donc Reims qui mène 1-0 pour le moment face à l'Olympique de Marseille. La météo demain matin, de la pluie sur le nord et les Alpes. Quelques gouttes entre le Sud-Bretagne et l'Aquitaine. 2 belles éclaircies ailleurs. Les températures, 8 degrés à Rennes et Bourges, 10 pour Cherbourg et Nantes, 12 degrés à Charleville-Mézières, Paris et Montpellier, 14 à Strasbourg. Les courses demain, elles ont lieu à Longchamp. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 9, l'As, le 12, le 10, le 4, le 3, le 5 et l'outsider de RTL, le 12, aha! RTL, 22h03. Tout de suite, parlons-nous avec vous, Caroline Dublanche. Bonsoir.
Bonsoir, Rachel.
Et je vous dis à tout à l'heure.
Bien sûr, on vous retrouvera à 23h.
Sans faute.
RTL. RTL. Vivre ensemble. RTL Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Qu'est-ce que j'apprends, Amandine? Vendredi, vous m'abandonnez pour partir à Saint-Dizier?
Eh oui! RTL Matin, vous le savez, a pris l'habitude maintenant de se délocaliser. On va à la rencontre de nos auditeurs. 23 000 habitants donc dans la Haute-Marne. Pas de TGV, pas d'autoroute. Victimes de la désindustrialisation de ces dernières décennies et qui tentent de s'en sortir. On va donc parler économie notamment avec Martial Liu et François Langlais qui viennent avec moi.
Ah, vous emportez toute cette équipe?
Eh oui! On sera sur place en direct dès 7h et on invite tous les auditeurs qui sont pas loin à venir nous voir.
Rendez-vous est pris avec grand plaisir vendredi matin.
RTL.
22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. C'est votre moment chaque soir de 22h à minuit et demi. Alors si vous désirez me parler, me confier vos problèmes de cœur, vos soucis familiaux, vos problèmes au travail, je suis là pour vous, à votre écoute. Vous pouvez appeler le 09 69 39 10 11 où vous allez être chaleureusement accueillis par Violaine et Paul sous le regard attentif de Oriane Leport à la réalisation de l'émission. Et parce que dans cette émission, on partage, on échange aussi nos expériences, nos vécus, eh bien nous comptons sur vous et sur vos réactions par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ou encore sur notre page Facebook RTL Parlons-nous. Paul se fera l'écho des commentaires que vous nous laissez, ou directement, si vous voulez dialoguer avec un auditeur, lui témoigner de vive voix votre soutien, eh bien c'est très simple, vous nous passez un petit coup de fil, 09 69 39 10 11. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Caroline.
Et ravie de vous accueillir pour échanger avec vous.
Moi aussi, je suis ravie de vous entendre depuis des années que j'écoute l'émission.
Oui.
J'ai enfin osé sauter le pas.
Ah ben bravo, c'est bien alors d'avoir osé.
Oui, je suis très contente de pouvoir parler avec vous.
Et de quoi voulez-vous me parler alors ?
Donc, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu une enfance assez compliquée.
Oui.
Voilà, mes parents, enfin, il y avait beaucoup de tensions, etc. Et, pardon, j'ai un peu un chat dans la gorge.
Je vous en prie.
Et nous sommes 6 enfants.
Oui.
J'ai 2 sœurs qui ont coupé les ponts. Et moi, en fait, je ne sais pas comment me positionner par rapport à mes parents. Parce que je continue à leur parler, je continue à parler avec mes 2 sœurs aînées.
Les vos 2 sœurs qui ont, elles, décidé de rompre avec eux?
Oui, il y en a une qui a rompu depuis plusieurs années et l'autre, oui. Ça fait plusieurs mois.
Oui.
Et voilà.
Donc vous faites le lien entre vos parents?
Non.
Et...
Non. Non. En fait, mes sœurs me disent des choses. Enfin, on se parle régulièrement, mais...
Oui.
Je ne dis rien à mes parents sur ce que mes sœurs peuvent me confier. C'est compliqué parce que je sens que mes parents ont de la rancœur envers mes sœurs qui ont coupé les ponts, ou presque. Enfin, pour,
Oui.
Et donc, je me sens au milieu de tout ça et un peu en, comment dire, comme en conflit de loyauté, un peu, vous voyez.
Mmh, mmh. Mais pourquoi vos sœurs ont... Vous savez pourquoi elles ont décidé de couper les ponts, vos sœurs ?
Oui, oui, c'est que l'enfance a été difficile.
Oui.
Ma maman avait tendance à être très stressée, souvent humiliante. C'était beaucoup de disputes entre mes parents aussi.
Oui.
De la violence verbale. Et donc, pas d'amour, vraiment. Et donc, ça, elles ne s'en remettent pas et elles ne pardonnent pas, d'autant plus que mes parents ne se remettent pas du tout en question.
Ils sont toujours ensemble, vos parents ?
Oui.
Oui, malgré leurs conflits, leurs disputes, ils sont toujours...
Oui, ils sont toujours ensemble et toujours très proches, tous les deux.
D'accord. Et oui. Mais alors, vos sœurs ont, je ne sais pas... Quel âge elles ont, mais elles ont décidé, vous me dites, il y en a une qui a coupé les ponts seulement il y a quelques mois, donc tardivement, il y a eu un événement qui a été déclencheur pour elles.
Oui, en fait, ma mère a eu une maladie, quoi, là, récemment, un cancer,
oui.
Et elle a dit que c'était du fait de la faute de mes 2 sœurs aînées. Voilà. Et donc ça l'a pas supporté,
oui.
C'était la phrase de trop, quoi.
Oui, c'est ça, comme vous dites, c'est la phrase de trop dans la culpabilisation.
C'est ça, voilà. C'est toujours ça. Quand on était enfant, on disait qu'elle divisait pour mieux régner. Parce que la famille, on est 6 et il y a peu de liens, quoi, entre les frères
entre
et sœurs,
vous.
Tout ça.
Oui.
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 Je suis la seule à parler à tout le monde.
Oui.
Et ben, c'est un peu lourd.
Certainement. Certainement
parce que
pour vous.
Je suis pleine d'ambivalence.
Oui. Dans les, dans ce, qu'est-ce que vous éprouvez, vous, qu'est-ce que ressentez-vous non, par rapport à tout ça?
Bah, de la tristesse, de la, un peu de colère contre mes parents.
Un peu seulement. C'est la tristesse qui prédomine.
Oui, la tristesse qui prédomine, c'est vraiment dommage. Enfin,
tristesse, qu'est-ce qui vous rend triste?
Alors, je suis triste à la fois pour mes sœurs, en fait, qui ont voilà, cette peine de ne pas avoir eu d'amour, on va dire. Et je suis triste en même temps, quand même, pour ma mère, qui fait de la peine parce qu'elle n'a pas eu un passé facile, en fait. Une petite enfance où elle a été abandonnée à 3 ans par sa mère. Donc, je comprends qu'elle ait eu du mal.
Oui.
Et que
vous comprenez
eu...
tout le monde. Et vous.
Oui.
Et oui, mais oui, vous êtes très. Vous, finalement, vous me dites, vous parlez à tout le monde dans cette famille, dans la fratrie qui est pourtant,
oui.
du fait de votre histoire, pas forcément très unie. Mais vous. Vous êtes pleine de compréhension, pleine. Essayant de vous mettre à la place des uns et des autres.
Exactement. Et
mais vous. Oui, mais vous.
Et moi, je.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Parce que.
Je me sens
vous...
seule.
Voilà. Ah, oui.
Et je prends sur moi, je ne parle plus de moi, parce que. C'est pas forcément bien reçu. Voilà, j'ai des difficultés aussi à l'heure actuelle, enfin, depuis longtemps, en fait.
Oui.
Oui.
Quelles difficultés avez-vous?
Des difficultés d'ordre psychique.
Oui.
J'ai eu beaucoup d'hospitalisations suite à des tentatives de suicide.
Oui.
Beaucoup de médicaments, des addictions dont j'essaye de... Enfin là, je m'en sors actuellement.
Oui. Des addictions aux médicaments ou à d'autres produits?
Le cannabis, beaucoup.
Cannabis.
Et aussi aux médicaments.
Oui. Qui vous sont prescrits par un médecin qui vous suit ou...
C'est ça qui me... Oui, par des psychiatres.
Oui.
Et là, j'ai fait une démarche pour me rapprocher d'un XAPA.
Oui, c'est bien, oui. Un centre de justement qui est spécialisé dans la prise en charge des addictions.
Voilà, parce qu'en fait, alors que je fume depuis mes 15 ans, enfin que je fumais parce que j'ai arrêté depuis 4 mois, j'avais jamais, je m'étais jamais attaquée à ce problème-là. Il m'est apparu que, enfin, pour avancer, il fallait peut-être déjà que j'essaye d'arrêter les produits, quoi.
Oui, ils vont pouvoir vous aider, que ça soit par rapport aux médicaments ou au cannabis.
Oui,
pour pouvoir vous accompagner. C'est peut-être quand même signe que vous allez mieux, d'une certaine façon, si vous commencez à vouloir arrêter, vous occuper de vous.
Oui, c'est ça. Je m'autorise à le faire parce que j'ai une famille aussi. Je suis mariée, j'ai des enfants.
Ah, bah, oui, voilà. C'est d'accord. Vous avez construit votre propre famille.
Oui, bon an, mal an, mais j'ai réussi.
C'est bien.
Oui.
Vos enfants ont quel âge?
Mes enfants ont 22 ans.
Oui.
Ensuite, j'étais beaucoup hospitalisée, donc bon, on n'a pas pu en avoir pendant longtemps. Ensuite.
Vous les avez eus jeunes, puisque vous avez 44 ans, ou c'est ça?
C'est ça.
Vous avez des jumeaux?
Non, j'ai une fille qui a 22 ans, que j'ai eue à 21 ans.
Oui.
Ensuite, j'ai deux jeunes, plus jeunes enfants où j'ai dû faire un grand parcours de PMA, et ils ont 4 et 7 ans.
Donc vous désiriez vraiment être mère?
Ah oui, vraiment beaucoup. J'avais aussi eu des défaillances avec ma grande fille. Et c'est peut-être pas bien, je sais pas, mais je voulais en tout cas revivre, en avoir au moins un autre.
Oui.
Et finalement, ça a été deux pour... j'avais cette envie profonde. Quoi.
Oui. Ce sont deux garçons que vous avez eus après ?
C'est un garçon puis une fille.
D'accord. Et quel genre de mère êtes-vous alors ? Parce que vous m'avez parlé de la vôtre de mère qui n'était pas... qui n'a pas su être une mère protectrice, qui n'a pas pu du fait de son histoire. Et
voilà. Qui... j'agis un peu en contrepoint de ce que j'ai reçu. Donc, je suis très aimante. Je m'occupe d'eux au maximum. J'écoute leurs émotions. Je les accueille au maximum. Je m'en occupe au mieux. Quoi. Je donne tout ce que je peux pour eux. Malgré que j'ai me gérer moi-même est souvent compliqué.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Vous êtes vous les élevez seuls ou leur père est présent ?
Leur père est présent et c'est le même papa.
Parce qu'on s'est rencontrés
très jeune.
Oui.
Oui.
Oui. Oui, donc c'est pas rien d'avoir eu envie à nouveau de ses enfants. Plus de presque, pas 20 ans après, mais...
Oui, 16 ans après, oui.
Il est... Et vous vous entendez bien, tous les deux ? Il est...
On vous soutient ? On est très proches, il me soutient. Il est super, quoi. Ça, j'ai eu beaucoup de chance. Il est très présent. Bon, mais il part beaucoup à des difficultés que j'ai encore, donc je pense que c'est pas toujours facile pour lui non plus, quoi, mais bon, il est très gentil, en tout cas, il est adorable.
Mmh. Oui, vous avez su, vous avez choisi un homme qui prend soin de vous.
Oui, exactement.
Et ces difficultés dont vous me parlez, là, aujourd'hui, vous me parlez de ces addictions, mais vous sentez comment ? Toujours angoissé ? C'est déprimé ? C'est qu'est-ce qui...
Toujours angoissé.
Toujours angoissé.
Angoissé, si bien que j'ai du mal à sortir. Enfin, c'est compliqué. Je suis mal dans ma peau. Enfin, j'ai pas du tout confiance en moi, en fait.
Mais vous avez eu une histoire qui vous a pas aidé, hein, à avoir confiance en vous.
Non.
Aussi.
Exactement. J'ai eu beaucoup de manques petites.
Bah vous avez été très carencé.
Oui.
Dans votre éducation.
Voilà.
Avec une mère, me dites-vous, qui était humiliante, tout le temps stressée, un peu rejetante finalement.
J'avais peur d'elle, oui. Enfin, même si apparemment j'étais la entre guillemets chouchoute, moi j'ai pas ressenti.
Est-ce que vous disent vos sœurs ou les...
Oui, oui, oui.
Donc, elles ont eu le sentiment que vous avez été mieux lotie, mais voilà. C'est pas votre sentiment à vous.
Eh bien non, parce que moi je voyais tout ce qui se passait, je culpabilisais, ça tombait sur les autres, ça me faisait beaucoup de peine.
Mais oui, c'est dur. C'est... Oui, oui.
Oui. Je me suis même inventé un trouble. Quand j'avais 8-9 ans, je pense pour qu'on s'occupe de moi. Quoi, mais...
Qu'est-ce que vous vous étiez inventé comme trouble ?
Un trouble oculaire.
D'accord, vous disiez que vous ne voyiez pas bien.
Voilà. C'était...
Pour attirer l'attention sur vous ?
Oui, après coup, je
non,
pense
c'est
que
pas nul.
Enfin, c'est pas.
Non, c'est pas nul. C'est symptomatique.
Oui, oui.
Mais parce que dans la, vous culpabilisiez de voir que vos frères et sœurs subissaient plus de violence que vous.
Voilà.
Que vous, en quelque sorte, je vais mettre des guillemets, vous étiez épargné, que votre
Exactement.
Mère vous. Était moins rejetante avec vous.
Exactement. Alors après, j'étais tout le temps sur le qui-vive et je faisais tout pour ne pas déclencher. Enfin, voilà, mais c'est vrai que ça ne me tombait pas dessus directement. C'est foutre, entre guillemets, quoi.
Et votre père, d'ailleurs, parce que vous me dites qu'entre eux, ils se disputaient assez souvent, si j'ai bien compris.
Oui.
Mais vous me parlez de la personnalité de votre mère, mais votre père, lui, comment
mon père,
réagissait-il, comment était-il avec vous, les enfants?
Il s'occupait pas vraiment de nous, et il ne nous défendait que très peu, en fait.
Même s'il était témoin de réflexions
Voilà.
Oui.
Et parfois, il se disputait à cause de ça, quand il essayait de s'interposer. Mais, par exemple, j'ai un souvenir, un jour dans la voiture, il a essayé de nous défendre et ma mère a menacé d'ouvrir la porte et de se jeter, quoi. Enfin, elle ne supportait pas, en fait. Donc, finalement, il a été...
Ouais.
Il ne disait rien et il ne nous défendait pas. Donc, bon.
Mais ce souvenir-là, il est très marquant. C'est-à-dire oui. la fois où votre père essaye d'intervenir, votre mère ne le supporte pas et se sent rejetée, elle, au point de manipuler, de dire « je vais sauter ».
C'est ça. Elle a pu aussi être... Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire.
Oui, certainement.
Par exemple, dire être jalouse en disant... Tu n'as qu'à te marier, enfin, avec ma grande sœur, enfin, elle était jalouse.
Elle disait cela à votre père?
Elle l'a dit, oui, oui. Il oui. essayait de la défendre, elle disait, allez-y, enfin, c'était spécial.
Oui, comme vous dites, c'est-à-dire que à ce moment-là, plus personne n'était à sa place. C'est-à-dire que c'est comme si votre grande sœur était une rivale.
Voilà.
Et que si votre père essayait d'intervenir pour protéger votre sœur de la violence de votre mère, elle disait qu'en fait il prenait le parti de cette fille parce que certainement qu'il avait d'autres sentiments que ceux qu'un père porte à son enfant.
Voilà. Et donc après, je suis partie très tôt et.
Oui, je comprends. Hein.
Et sans trop le. D'armes, enfin...
Ben oui, non, bien sûr. Non.
Et j'ai un peu lutté jusqu'à aujourd'hui, où ça va quand même beaucoup mieux.
Mais... Est-ce qu'ils ont... est-ce que quelqu'un... parce qu'on sent que vous avez... beaucoup de, vous êtes très compréhensif. Vous, votre mère, vous dites, elle est comme ça parce que elle-même a une histoire difficile. Et de fait, bien sûr qu'on ne devient pas rejetant et maltraitant comme ça par hasard. Oui. Que c'est toujours le fruit d'une histoire et que malheureusement on peut être pris dans une répétition. Que on sait que des enfants, maltraités, peuvent devenir à leur tour des parents maltraitants. Mais c'est pas systématique non plus. La preuve. Enfin, oui. Vous voyez, vous et d'autres qui dans les histoires, dans les vécus de parents maltraitants, rejetants, quand on se plongent un peu dans leur histoire d'enfant, on retrouve beaucoup de chaos, souvent.
Oui, oui. C'est ça que je comprends.
Mais pour autant, donner, c'est-à-dire chercher à comprendre, ça ne veut pas dire non plus tout excuser.
Voilà. Et c'est là où j'ai une ambivalence.
Oui.
À la fois, j'ai de l'amour pour eux et en même temps, j'ai un sentiment de dégoût. Enfin, je sais pas comment trouver le bon mot, mais
De dégoût.
Un peu, oui. Parce que moi, j'aimais les grandes sœurs et j'ai du mal à supporter cet état de fait.
Ça vous fait de la peine.
Beaucoup, oui.
Ça vous fait de la peine parce que vous aimeriez. Oui, c'est ça. Vos grandes sœurs. N'ont pas pris cette décision à la légère.
Elles
n'avaient pas d'autre choix. Ce ne sont pas des mauvaises filles ou des filles ingrates.
Contrairement à ce que dit ma mère.
Oui, mais c'est plus facile de dire ça. On voit bien, encore aujourd'hui, il n'y a aucune remise en question de la part de votre mère.
Jamais aucune.
C'est pas elle qui a pu faire souffrir.
Non.
C'est elle a souffert, parce que vous avez dû en entendre parler, de son histoire.
Elle, oui, mais elle n'en parle pas facilement, mais elle a souffert à cause de ses enfants qui s'entendaient pas, ou mes deux grandes sœurs ne s'entendaient pas parce qu'elle attisait aussi des conflits.
Oui, c'est ça. Ce qui est terrible, c'est que, et malheureusement, elle est, enfin, vous sentez bien, elle est dans l'incapacité de comment dire, d'être dans un travail un peu d'introspection.
Complètement, voilà.
Elle n'en a pas la possibilité.
Exactement.
Donc, ce sont toujours les autres.
Toujours, qui, voilà.
Et y compris ses enfants. Alors qu'on sait que des enfants qui s'entendent pas, enfin, alors à l'âge adulte c'est différent, mais ça peut amener à s'interroger en tant que parent aussi.
Oui, complètement. Hein,
quand on est parent, dire bon. Mais là, c'est toujours l'extérieur qui est responsable et jamais elle.
C'est ça. Alors, comment agir avec une personne qui fonctionne comme ça, en fait ?
C'est ma... En vous protégeant beaucoup.
Oui.
En vous protégeant beaucoup, c'est-à-dire qu'il est, vous protéger, ça voudrait dire qu'il faudrait faire en sorte que cela vous affecte moins. Qui est compliqué.
D'accord. C'est compliqué. Parce que...
Oui, mais parce que là, vous souffrez, vous avez votre propre histoire, Anaïs. Et votre propre douleur qui résulte de cette enfance-là.
Oui.
Vous me dites, vous l'évoquez très pudiquement, mais enfin, ces addictions, par moments, ce désespoir qui vous a quand même amené à commettre des gestes où vous en êtes pris à vous-même violemment.
Oui. Bon. Alors que j'avais ma fille en plus.
Oui, et on sent combien vous êtes dans la culpabilité.
Ah oui, oui, toujours.
Mais parce que certainement vous avez été, peut-être d'ailleurs votre mère, là aussi, vous avez été un peu épargnée parce que vous dites, ce qu'on retrouve souvent d'ailleurs chez les enfants qui ont grandi dans un contexte de violence, ils sont sur le qui-vive, ils apprennent dans ce climat chaotique, dans les réactions imprévisibles de leurs parents, ils sont en permanence sur le qui-vive pour essayer de décoder.
C'est ça.
D'anticiper.
C'est ça, oui, exactement.
Ce qui peut arriver, à quel moment ça va partir, la crise ou les coups, les réflexions violentes.
Voilà, c'est ça.
Et ce qui est très compliqué, parce que souvent ça peut être incohérent quand on parle de quelque chose de chaotique, c'est-à-dire...
anecdotique même.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui nécessiterait une réaction du parent et où il n'y en a pas.
Oui.
Et à l'inverse, une broutille, comme vous dites, quelque chose d'anecdotique, va faire qu'il va rentrer en fureur.
Oui.
Donc, vous vivez... Mais ce qui est compliqué, c'est que quand on est enfant, ce fonctionnement-là, on n'a pas conscience qu'il est pathologique. Puisque c'est le seul modèle que l'enfant a sous les yeux.
Oui.
Ce lien-là.
Oui, je m'en suis rendu compte quand je suis partie à 15 ans, quoi, qu'ailleurs.
Vous êtes partie à 15 ans ?
Oui, et ils m'ont pas retenue, en fait. Ça, j'ai du mal à comprendre à l'âge adulte aussi, maintenant.
Ben oui, surtout vous qui êtes maman maintenant, aujourd'hui. Vous êtes partie où à 15 ans ? Vous aviez rencontré votre futur mari ?
Non, j'étais chez une copine, mais qui n'était pas très... Comment dire pas une bonne
Oui, vous n'êtes pas arrivé dans une, vous auriez parti chez une amie, mais qui dont les où vous auriez trouvé un fonctionnement familial un peu protecteur, mais c'était pas le cas.
Au lieu de ça, voilà, j'ai eu des problèmes là-bas aussi, quoi. Donc, je suis restée 3 mois et ensuite ils m'ont dit bon bah qu'est-ce que tu veux faire, mes parents, ça peut pas durer que tu restes là, et j'ai eu une semaine pour dire ce que je voulais faire. Et là, j'ai rencontré mon mari, quoi. Parce que je suis arrivée dans le monde agricole, enfin...
Il était dans le monde agricole, votre mari ?
Pas vraiment agricole, mais du cheval.
Ah, oui, d'accord.
Et bon,
il y a des valeurs, il y a un cadre, là.
Malheureusement, sa maman... il vivait avec sa maman, qui s'est donné la mort un an après. Donc voilà, ça n'a pas été facile les débuts.
Vous avez formé une famille à vous deux, quoi.
C'est ça.
Vous êtes raccrochés l'un et l'autre, étaient perdus et malheureux. Je trouve que, au vu de cette histoire-là, d'avoir de vous être rencontrés, enfin, comme si vous vous êtes accrochés l'un à l'autre.
Oui.
Oui.
Oui. On s'est mariés à 20 ans et.
Pour répondre, pour revenir, vous dites que vous vous sentez comme ça aujourd'hui tiraillé, enfin entre vos sœurs qui ont décidé de rompre, vous qui continuez à voir vos parents.
Oui.
C'est votre choix à vous de continuer à les voir, mais je crois que il ne faut pas vous charger de l'histoire des uns et des autres. Comment vous dire les choses autrement ? C'est-à-dire que vous pouvez continuer à aller voir vos parents, mais en vous fixant des limites aussi.
D'accord.
C'est-à-dire pas devenir, voyez, la confidente de, c'est-à-dire quand votre mère se plaint de vos sœurs en disant que vraiment les laisser tomber comme ça.
Voilà. Oui.
Alors, vous pourriez dire que si elles ont. Mais ça serait parler pour elle. Donc je trouve que ne vous lancez pas là-dedans. Vous avez, c'est de vous dont il faut vous occuper. Parce que de toute façon, je pense que vous parleriez dans le vide.
Exact. Oui, malheureusement.
Et si elles ont quelque chose à dire, c'est à vos sœurs de le dire.
Oui, voilà.
Vos sœurs se protègent.
Oui.
Vos sœurs, à un moment, parfois, on n'a pas l'enfant adulte n'a pas d'autre choix. Pour continuer à vivre, pour continuer à pour essayer d'aller bien que de rompre le lien. Ce qui ne se fait jamais, enfin, c'est toujours douloureux d'arriver à une telle décision, hein. Ça se fait pas comme ça. D'ailleurs, vos sœurs, elles ont mis du temps aussi à cela.
Oui, c'est douloureux des deux côtés. Bon. Oui, oui.
Mais comme vous dites, la phrase où votre mère le reproche la maladie, c'est la phrase de trop. Voilà, ça venait s'accumuler. C'est la violence de trop.
C'est ça.
Donc à un moment, elle se protège. Vous, vous encaissez. Vous encaissez trop, je trouve.
Oui, ça me.
Ben, ça vous bouffe.
Exactement.
Parce que vous m'avez dit en parlant de vos enfants que quand je vous demandais quel genre de mère vous étiez, que vous étiez à l'écoute de leurs émotions, vous accueillez les émotions, leurs émotions. En revanche, je trouve que vous n'êtes pas assez à votre écoute à vous.
C'est vrai, mais disons que c'est j'ai le sentiment de pas en valoir la peine. J'ai pas trop d'estime pour moi. C'est compliqué, mais je travaille dessus. Mais
oui, alors que vous êtes vous, enfin, sur un plan humain, il y a, on sent cette douceur, mais qui peut, quand vous avez fait vos tentatives de suicide, on voit bien la violence qui ressurgit, qui n'est pas la vôtre, qui est celle dans laquelle vous avez grandi.
Oui, c'est vrai.
Mais que vous retournez contre vous-même. Donc elle peut surgir. Oui. Vous en prenez pas aux autres, vous en prenez à vous-même, comme si vous n'aviez pas de valeur.
Non.
Mais ça, vous savez, Anaïs, c'est quelque chose. Enfin, c'est malheureusement une des conséquences que l'on retrouve chez de très nombreux enfants qui ont été maltraités.
D'accord.
Ben oui. La dépréciation de soi, la mauvaise image qu'ils ont d'eux-mêmes, la dépression, l'anxiété, les addictions. Bien sûr que la maltraitance laisse des traces aussi à l'âge adulte.
Comment on peut en sortir alors de
en s'occupant de soi et en parlant de son histoire et à un moment en devenant parce que moi quand je vous entends parler de votre mère, j'ai le sentiment que vous êtes et peut-être que ça a été très tôt, c'est comme si vous étiez vous la mère de votre mère.
C'est ça, oui.
que vous la comprenez au vu de son histoire, que vous essayez ce qu'elle elle ne fait pas. Alors j'entends que vous ne voulez pas l'accabler. Il s'agit pas, je veux pas.
Non, je, voilà.
Non, mais bon.
Même vous... si je suis en colère.
Oui.
Parce que par exemple, oui.
Oui, allez-y.
Non, je.
Non. Oui, même si vous êtes en colère, oui.
Mais parce que il y a des différences entre leurs petits enfants, par exemple. Aussi, voilà.
Oui, et continue.
Oui, c'est ça.
Oui. Mais le problème, c'est qu'à un moment, cette colère, il faut qu'elle s'exprime quelque part. Il ne faut pas mettre le couvercle dessus.
Oui, c'est vrai.
Parce que sinon, à un moment, cette colère, et c'est au-delà de la colère, c'est de l'agressivité et de la violence, vous la retournez contre vous-même. Oui. Et d'ailleurs, en vous déprimant.
Oui, aussi.
Aussi.
C'est vrai. Hein? Et en me cachant chez moi, en sortant pas... En... Ou oui. Pas beaucoup.
Donc, vous savez ce qu'on retrouve souvent, l'enfant, dans les problèmes de maltraitance, l'enfant pense qu'il est à l'origine de cela. De la violence qu'il voit autour de lui, de la violence dont il peut être l'objet, et puis être témoin de violence sur les autres enfants ou dans le couple parental. Même si vous n'en êtes pas directement l'objet, vous en êtes également victime. Parce que ça fait grandir dans une immense insécurité.
Oui. Bon.
Donc, cela dit, la confiance en soi, toute cette image, quand vous me dites, ça peut s'acquérir, hein, même beaucoup plus tard. Et quand vous me dites, Anaïs, que là, vous avez pris la décision d'aller dans un XAPA, un centre d'accompagnement justement pour les addictions, parce que vous dites quand même, il serait peut-être temps que je m'occupe aussi de ça, mais peut-être que c'est un signe, enfin, même que tout ce travail que vous faites sur vous, il porte ses fruits, parce que enfin, arrêtez de vous abîmer.
Aussi. Voilà, oui, c'est vrai.
Alors, c'est aussi dire, pourquoi vous continuez à vous abîmer ? À poursuivre ce travail de sable qui a été entrepris, qu'il n'y a pas de fatalité, que vous pouvez rompre la sorte de fatalité. Votre mère, bon, elle a été abandonnée, mais il y a des enfants qui ont été abandonnés et qui, au contraire, comme vous avez dit d'ailleurs, vont redoubler d'amour, vont essayer de donner ce qu'ils n'ont pas reçu.
Oui, peut-être bon. Trop, je sais pas, mais.
Peut-être trop, oui, mais bon, c'est mais une bon. Autre façon de. Mais on sent, vous avez, et, quand vous dites, malheureusement, ce qu'il faut changer, c'est le regard que vous portez sur vous. Parce que je vous assure que quand on vous entend, Anaïs, on sent, d'abord, je trouve, une personnalité attachante, on sent que vous avez une capacité de réflexion, d'introspection, d'analyse. Vous êtes nuancé, vous posez les choses. Donc ça a dû être très difficile pour l'enfant que vous étiez de grandir dans un milieu comme ça, où rien n'avait de sens. Et où vous, votre survie, parce que je pense que chaque enfant aussi réagit différemment, votre survie, ça a été essayer de décoder et de comprendre.
Oui.
Et d'analyser, mais au détriment de... C'est-à-dire que ce qui est flagrant, quand je vous ai demandé ce que vous ressentiez, vous m'aviez dit de la tristesse.
Oui.
Et un peu de colère. Il y a un peu, hein, il ne faut pas trop... Peut-être parce que, aussi, la colère, ça vous ne voulez surtout pas ressembler à votre mère, sous cet angle-là. Bon, mais vous pouvez ressentir de la colère pour l'enfant que vous avez été et qui a grandi dans une forme d'abandon. D'ailleurs, on voit bien, à 15 ans, vous êtes parti, vos parents ne vous retiennent pas.
Non.
Ça montre bien qu'ils étaient dans l'incapacité d'être des parents. Et pas seulement votre mère.
Exact. Et au lieu de ça, ils ont eu encore deux enfants après, enfin.
Voilà, mais faire des enfants, c'est assez facile. Alors, je pense évidemment à ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont une difficulté. Vous-même avez fait un parcours de PMA pour avoir des enfants. Mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas le fait de mettre au monde physiquement un enfant qui fait d'une femme une mère, hein.
Oui,
d'ailleurs, les enfants, il y a des personnes qui adoptent des enfants et ne les ont pas portés dans leur ventre, ils ont pas, et qui sont des parents formidables.
Oui.
voyez, c'est autre chose, c'est aussi psychique, cet accompagnement d'un enfant.
Oui.
Mais bon, alors, et quand je vous ai posé cette question, vous m'avez parlé de la tristesse de votre mère, vous m'avez parlé de la tristesse de vos sœurs, comme si vous, ça comptait pas. Donc il va falloir que vous comptiez un peu plus à vos yeux et que cet enfant qui est toujours là en vous, c'est elle qui souffre. Hein, parce que la femme que vous êtes devenue a la chance d'avoir un mari auprès d'elle et vous vous êtes donné cette chance qui est aimant. Enfin, vous formez vous un couple solide et qui malgré, vous voyez, il est là, il vous lâche pas. Il vous aime.
Oui,
il vous aime. Et vous avez même des années après choisi d'être à nouveau parent.
Oui.
Vous avez la responsabilité. Ben, vous êtes une maman et vous faites avec vos manques, mais vous faites. Et je pense que là aussi, vous avez tendance à vous déprécier, à vous dévaloriser et que vous devez faire pas si mal que ça, en fait.
Apparemment.
Mais oui.
Ça va, ils ont l'air d'aller bien.
Mais oui. Mais qu'en revanche, ce qui souffre, vous souffrez de cette enfance, vous souffrez de cet enfant qui est en vous, cet enfant que vos sœurs, dont elles enviaient la position, qui n'était pas si enviable que ça. Donc, il faut lui donner la parole, là.
D'accord.
Faut la laisser s'exprimer. Parce que vous me parlez de... Alors, d'ailleurs, dans... vous arrêtez de vous abîmer à travers les addictions. Oui, mais c'est une façon aussi de faire taire les émotions, hein.
Complètement,
de s'anesthésier.
Depuis 4 mois que j'ai arrêté, j'ai beaucoup d'émotions qui arrivent.
Oui.
C'est assez perturbant.
Oui, je comprends. Oui. Je comprends parce que pendant longtemps, vous les avez tues. Pour analyser, pour survivre. Alors, c'est là où il est très important que vous ayez un accompagnement. Parce que, je vais reprendre votre formule quand c'était la maman qui parlait, Anaïs, la maman qui parlait de ses enfants et dit, j'accueille leurs émotions, j'en tiens compte. Ben, il va falloir que vous soyez une bonne mère pour vous-même.
D'accord.
Et vous pouvez l'être. Quand on n'a pas eu de parents, et d'ailleurs, vous m'avez dit, en parlant de votre mère, vous avez dit maman. Alors que vous avez eu une mère, mais vous n'avez pas eu une maman.
Exactement.
Et vous pouvez être une mère, une bonne mère pour vous.
Comment on fait ça?
Eh bien, comment on fait ça? Vous voyez, comme vous êtes en train déjà, là, c'est ça qui est... Là, c'est là où vous avez besoin d'être accompagné. Vous êtes en train de vous sevrer des substances.
Oui.
Donc, comme ça fonctionne plus côté j'anesthésie, ce que je ressens, la douleur, la tristesse, la colère, eh bien, là, c'est en train de remonter. Là, il va falloir aussi que quelqu'un vous tienne par la main, même symboliquement.
Oui.
Alors, dans ce que ça pas, il y a des psychiatres, psychologues. Vous voyez, dans le cadre d'une thérapie de soutien.
D'accord, avec plutôt une psychologue.
Psychologue ou psychiatre, mais dans le sens où quelqu'un où la thérapie elle, se passe par la parole.
D'accord.
Vous voyez, donc ça peut être une psychologue, ça peut être un psychiatre si il ne vous prescrit pas des médicaments, mais il est là. Il y a des le psychiatre est médecin et fait des prescriptions, mais il peut aussi être dans un accompagnement thérapeutique.
D'accord.
Voilà, et que vous ayez un endroit où régulièrement, c'est aussi ça. Comment faire pour accueillir vous cet enfant là qui est toujours en souffrance en vous? Eh ben, lui donner la possibilité régulièrement, enfin, de prendre la parole.
D'accord.
Avec quelqu'un qui va être là et qui va pas vous lâcher.
D'accord.
Parce qu'il faut enfin vous écouter.
Parce que là où j'ai fait le sevrage, je peux y retourner en septembre pour 2 semaines et je ne sais pas quoi, si c'est bien, si...
Retourner où?
Ça s'appelle du séquentiel. Eh bien, c'est un hôpital, en fait, où j'ai fait la cure.
Oui.
Et il me propose un autre séjour pour continuer à travailler... sûrement, en fait.
Ça s'était passé comment, le premier séjour?
C'était très bouleversant, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça a, ça a fonctionné sur le cannabis, en tout cas.
Oui.
Mais c'était bouleversant, oui.
Oui, mais oui, c'est bouleversant. Mais oui. Mais oui. Et c'est, je comprends que vous ayez peur. Vous les avez tellement enfouis pour moins souffrir, tellement.
Oui.
Je me souviens d'un pédopsychiatre qui accompagnait des adolescents en proie comme ça à des addictions, enfin qui étaient dans un profond mal-être. Et il me disait que c'était souvent les plus sensibles, les plus intelligents, les plus, enfin, humainement, qui avaient énormément de qualités qui s'abîmaient comme ça, justement parce qu'ils ressentaient trop fort les choses. Et on entend vous tout ça chez vous. Donc, vous avez mis pendant longtemps comme si vous aviez gelé tout ça, un peu glacé pour moins souffrir.
Oui.
Et là, évidemment, ça ressort. Donc, c'est déstabilisant, c'est perturbant. Mais je pense que justement, c'est là où il est important d'être accompagné.
D'accord.
Et que si cette première, ce premier temps s'était bien passé, il faut poursuivre, pas vous arrêter en chemin comme ça.
D'accord.
Parce que sinon, vous êtes au moment, avec tout ça qui remonte, et perdu à nouveau. Donc vous avez aussi besoin qu'on vous accompagne. Je vais vous lire des messages parce que ça, quand vous dites, quand on entend à quel point, comment vous parlez de vous et comment malheureusement l'enfant que vous étiez a intériorisé les propos de votre mère, les humiliations et que vous avez le sentiment de pas avoir de valeur. Ben, je peux vous dire que il y a Bob White qui dit vous êtes tellement touchante, vos mots sont forts, symbolisent tellement de choses. C'est vrai que les mots, ils sont choisis, ils sont très parlants, vos mots. Il y a Denise qui dit vraiment qui est suspendue à vos lèvres. Elle dit quelle dame, quelle grande dame, dit Denise. Il y a Brigitte qui dit avoir une fille comme Anaïs est un don dont beaucoup de parents rêveraient et moi aussi. Elle a raison, Brigitte. Et malheureusement pour vos parents, ils n'ont même pas conscience de votre valeur et de la chance qu'ils ont d'avoir une fille comme vous. Ils n'ont pas conscience de votre valeur.
Je suis très touchée. Merci beaucoup aux auditeurs et à vous pour tous ces mots. Enfin,
Il y en a d'autres qui vont arriver parce que je vois Paul depuis un moment qui me faisait signe. Il est sur son écran et il me dit voilà, avant qu'on se dise au revoir, Anaïs, que vous écoutiez d'autres mots aussi d'auditeurs qui, je pense, ont dû vous écouter avec énormément d'attention.
Et surtout, Anaïs, en se parlant avant l'émission, elle avait un peu peur évidemment. Et vous allez voir que vous êtes loin d'être ridicule, ma chère Anaïs, parce qu'il y a Fanfan qui dit.
Ridicule?
Elle avait un peu peur. Elle avait peur de perdre ses moyens, je comprends. Et je dis, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et il y a Fanfan qui dit très émouvant le récit d'Anaïs. Moi, je lui souhaite vraiment de trouver le vrai bonheur, la paix en vous. Vous le méritez. Vous devez penser à votre propre famille et vos enfants. Et d'ailleurs, ces derniers vous en seront éternellement reconnaissants si vous le faites. Il y a Nathalie qui dit votre vie devrait vous rendre fière de vous. Vous voyez tout votre parcours.
Oui.
Beaucoup auraient été écrasés par tous les obstacles.
Alors,
laissez toute cette famille et continuez votre magnifique parcours avec tout le courage que vous avez. Occupez-vous de vous, votre colère peut vous détruire. Il y a Dany aussi qui vous admire. Et moi, j'admire Anaïs, son parcours, la maman qu'elle est devenue.
Je comprends.
Occupez-vous de vous, éloignez-vous un peu de vos parents parce que, visiblement, leur rendre visite, ça vous affecte beaucoup trop.
Oui.
Donc, sincèrement, pensez à votre petite famille que vous avez su construire. Et puis, il y a Françoise qui utilise un mot un peu étonnant. Elle dit, Anaïs, elle est craquante. Un peu comme la petite fille.
Je comprends ce qu'elle veut dire. Oui, non, mais il y a quelque chose. Mais dans votre voix, il y a cette douceur et c'est vrai qu'on sent, il y a quelque chose qui est très émouvant chez vous.
Sincère, authentique.
Ouais.
On comprend que petite, vous auriez préféré ne pas voir ce qui se passait autour de vous. Et vous savez quoi? Moi, j'ai du mal à vous imaginer en colère. Vous dégagez une telle bienveillance. Vous mettez une telle pugnacité à vouloir comprendre, aimer votre famille. Un vrai sacerdoce. Donc moi, je vous souhaite sincèrement de trouver l'apaisement.
Merci mille fois.
Et Brigitte qui disait que finalement avoir une fille comme vous c'était un don. Brigitte, elle dit oui. Retournez faire une cure, magnifique jeune femme. Et occupez-vous de vous.
Bon, je vais faire tout ça. Merci mille fois.
Mais c'est moi qui vous remercie. Et je sais que Paul m'avait dit hein, que vous hésitiez, que c'était compliqué, que vous aviez peur de ne pas savoir parler, qu'en fait, vous vous êtes exprimé vraiment. Il y a encore de très nombreuses réactions de gens qui ont été touchés, émus par votre parcours et admiratifs aussi de votre parcours. J'espère que ça vous a fait du bien.
Beaucoup, énormément, vraiment.
Et retournez en septembre, vraiment, mettez-le, c'est un projet, parce que ça fait partie, ça, de vous occuper de vous, de, enfin... Et c'est important pour vous et aussi pour vos enfants, pour, voyez, se casser cette chaîne-là. Il n'y a pas de malédiction, Anaïs. Et en revanche, par rapport à vos parents, protégez-vous. Et protégez-vous et vous avez le droit aussi de à un moment c'est de rompre le lien est coûteux parfois psychiquement. Donc vous vous avez fait le choix de ne pas rompre, c'est votre choix, mais vous pouvez en revanche un peu espacer et à un moment si vos parents vous en faisaient le reproche ou autre dire j'ai à m'occuper de moi.
D'accord.
Parce que vous avez à vous occuper de vous.
Oui, il y a un peu de pain sur la planche encore.
Oui, mais je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de travail de fait et, pense que vous êtes vraiment... la façon dont vous me parlez montre que vous allez mieux, beaucoup mieux.
Oui, c'est vrai, je vais beaucoup mieux, oui. Ça...
Et on a envie, vraiment, que vous alliez bien. Tout
merci
court.
Infiniment.
Donc donnez-nous peut-être d'ailleurs je sais pas ici là en septembre l'été sera passé quand vous aurez fait cette cure en septembre n'hésitez pas à rappeler je serais heureuse d'avoir de vos nouvelles.
Ben
nous si on aimerait bien.
Bon ben super alors je
quand vous le souhaitez vous rappelez.
D'accord. Ben merci.
Vous aurez moins
Caroline,
peur comme ça maintenant.
Et Paul et Violaine d'accord.
Je vous embrasse Anaïs et continuez hein, comme ça.
Merci mille fois, je vous embrasse aussi Caroline.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
Bonne réponse encore de Paul Alcarat.
Non mais attendez, s'il vous plaît, j'aimerais faire une proposition.
Oui monsieur Anne.
Je pense que Paul Alcarat devrait avoir un handicap. C'est-à-dire
Déjà.
Ah bon.
J'en ai déjà en société,
si
vous allez
non,
pas c'est vous qui devriez en avoir un.
Les grosses têtes, tous les jours à 15h30 sur RTL. RTL, rire ensemble.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical.
Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. You can't be sad, I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight. But then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend, baby, now and then. Don't you just wanna wake up? Dark as a lake, smelling like a bonfire, lost in a haze. If you're drunk on life, babe, I think it's great. Sweet.
Sweet, c'est le tout nouveau single de Osier qui retrouve le succès près de 10 ans après Take Me to the Church.
Jusqu'à 12h30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
On va arriver bientôt aux infos de 23h. On est à vos côtés et en direct hein, jusqu'à 12h30. Donc n'hésitez pas, si vous désirez me parler ou dialoguer avec un auditeur, à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. Et je vous rappelle que c'est un numéro de téléphone qui n'est pas surtaxé. Voilà, on va accueillir le temps de vous présenter, ma chère Guylaine, avant les infos. Bonsoir Guylaine.
Oui, bonsoir.
Vous êtes toute timide.
Oui.
Oh, vous inquiétez pas. Bah alors c'est bien parce que finalement, vous voyez, on a le temps juste un peu de présenter la situation avant les infos de 23h. Comme ça, vous allez pouvoir faire... Vous dites, allez, ça y est, vous aurez fait le plus dur. À 23h, on fait une petite pause et on se retrouve après. Vous voulez me parler d'une rencontre, je crois, que vous avez faite et qui vous bouleverse un peu.
Oui, je m'appelle Guylaine, j'étais célibataire pendant un peu plus de 2 ans. Et juste en allant chercher mon pain, j'ai rencontré un monsieur qui est routier.
Oui.
Et depuis 6 mois, nous sommes liés d'amitié.
À la boulangerie, alors, vous l'avez rencontré ?
Oui.
Oui, c'est ça. Et lui, il venait, vous avez discuté et...
Oui, lui était routier, il s'arrêtait chercher un sandwich.
Ben voilà. Ben voilà, il y a des rencontres comme ça qu'on peut faire vraiment quand on dit au coin de la rue.
Mais je m'en veux parce que nous avons d'abord été amis. J'ai vu qu'il avait une alliance.
Oui. Bah, pourquoi vous en vouloir
Parce que j'ai une attirance envers lui.
Oui. Bah, écoutez, c'est son problème à lui, après tout. C'est pas vous qui êtes mariée, c'est lui.
Oui, mais ça,
ça va contre vos valeurs, quoi.
Exactement. Ça va contre vos valeurs.
Oui.
Ma religion, mes valeurs.
Oui, c'est ça qui est.
Tout.
Tout. Mais alors, vous me dites que depuis 6 mois, vous voyez, vous êtes amis. Donc, s'il est routier, il habite dans la région ou il passait par là
C'est-à-dire, il fait des allers-retours avec son camion, mais j'étais sur son circuit.
Oui, donc il n'est pas de la région.
Il est à quelques kilomètres, non, à 2 heures.
D'accord.
2 heures de route. Et j'avais pris l'habitude de s'arrêter chez moi.
Oui.
Et de repartir, voilà.
D'accord, donc il venait chez vous pour... donc vous lui aviez donné votre adresse, il vient vous voir. Donc ça fait 6 mois que vous voyez comme ça
Oui, oui.
Mais vous n'êtes pas allé plus loin